cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 14 octobre 1993. Les vertus morales, l'éthique religieuse.
Nous allons commencer le premier cours d'éthique. Alors, je crois que c'est nécessaire, surtout avec l'encyclique du Saint-Père, de bien situer la position philosophique et la position théologique. Surtout ne pas faire d'opposition dialectique. Puisque nous combattons la dialectique, ne tombons pas dans le panneau. Le philosophe, quand il s'agit de la philosophie première, de la position de l'homme par rapport à Dieu, doit être très attentif à ce qui s'est passé depuis 150 ans. Cette montée des idéologies athées. On ne peut absolument pas faire l'économie de ça, dont on voit le fruit, cette éthique qui est contre l'aspect religieux et que veut être une éthique uniquement laïque. Et le terme laïque, vous savez bien, est très équivoque aujourd'hui. Il faut être très attentif à ça. Parce que le laïque tel que l'emploie le droit canon est un terme et une expression tout à fait admise. Le laïc se distingue du clerc. D'une certaine manière, le moine est un laïc. Dans cette expression-là, c'est le clerc qui est lié par le point de vue des sacrements et du sacerdoce à la hiérarchie. Les moniales contemplatives sont-elles laïques ? D'une certaine manière, puisqu'elles ne sont pas prêtres. Le laïc chrétien, il est consacré à Dieu. Le laïc, dans un terme politique d'aujourd'hui, séparation de l'Église et de l'État. Peut-être très légitime. Pas seulement la distinction, mais la séparation. Les contrats qui pouvaient exister avec Rome, les différentes alliances qui pouvaient exister avec Rome entre un État et l'Église sont très légitimes et sont quelque chose de bon. Mais la séparation d'Église et l'État, c'est en fait dans un climat révolutionnaire. Il faut bien le voir, il faut bien le comprendre. L'histoire, au point de vue politique, joue un rôle très important. Comme point de vue culture, point de vue de la culture. Point de vue métaphysique, c'est beaucoup moins grand. Mais au point de vue éthique et politique, ça joue beaucoup. En France, l'aspect laïque est devenu une laïcisation. C'est-à-dire, au fond, presque une lutte et une conquête progressive vis-à-vis des biens de l'Église, vis-à-vis des institutions de l'Église. On voudrait supprimer tout cela et que l'Église se ramène uniquement à quelque chose de personnel. Un lien intérieur à l'égard de Dieu. Mais à l'extérieur, rien du tout. Vivez la vie de tout le monde. signe extérieur. Puisque dans certains lieux, actuellement, on interdit aux religieux d'être en habit dans un hôpital. On est dans cette situation-là par rapport à Cognac. Notre père innocent est demandé pour être aumônier. On dit oui, puis on nous dit ensuite, il est bien évident qu'à l'hôpital, c'est un lieu neutre. Donc il ne faut surtout pas outrager la sensibilité des gens. Et les malades sont particulièrement sensibles, donc il faut que l'aumônier ait la blouse blanche, comme les médecins, mettra simplement aumônier dessus. Quand on a dit ça au père innocent, il a dit, écoutez, j'ai le droit d'être dans ma tenue. Ah non, non, pas du tout. Ça a remonté jusqu'à l'évêque. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera, je n'en sais rien. Mais c'est pour vous montrer que ces choses-là existaient au début du siècle. Ça revient maintenant à une laïcisation poussée à l'extrême. Parce que on ferait un plébiscite par rapport aux malades. On demanderait tout simplement un test, si vous voulez. Je suis persuadé qu'il dirait qu'on est très heureux de voir une robe de moine dans l'hôpital, qui ferait un peu plus de chaleur dans l'hôpital que simplement l'aspect fonction. La fonction du médecin, la fonction. L'aumônier, c'est pas une fonction, ça qui est. Et on ramène l'aumônier à une fonction. On ramène l'aspect religieux à une fonction. C'est le tuyau d'eau chaude. Et puis les médecins, c'est le tuyau d'eau froide. Et c'est pas ça. Puisque c'est humain. Et même le médecin, c'est pas une fonction. Et très vite, ça devient une fonction. Dans la mesure où ça devient des spécialistes. On ne regarde plus l'homme. Alors, ça touche, vous voyez, quelque chose de très particulier actuellement. Ça touche vraiment l'aspect religieux, comme pour Auguste Comte, comme pour le positivisme. L'aspect religieux est rejeté. Auguste Comte dit que l'âme religieuse, c'est le service à l'égard de l'homme. C'est ça. Donc on ramène à l'horizontale. Et un horizontal absolu. Alors à ce moment-là, le laïc, c'est une laïcisation de l'homme. C'est ce que... Et par le fait même, ça touche tout le point de vue moral. Toute une conception de l'homme. Je ne peux pas considérer que l'homme, dans sa dignité d'homme, n'a rien à faire avec Dieu. Non, il n'a pas rien à faire avec Dieu. Je sais que son âme a été créée par Dieu. Donc il est lié à Dieu. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, mais il est lié à Dieu. Et je n'ai pas le droit d'être complice d'un meurtre. Plus qu'un meurtre. C'est plus grave qu'un meurtre. Tuer le corps et la vie humaine, c'est grave. Mais tuer l'âme spirituelle, tuer l'aspect religieux, c'est plus grave que tout. Donc je n'ai pas le droit. Vous voyez ? Je n'ai pas le droit d'être complice de l'avortement. Je n'ai pas le droit d'être complice d'une laïcisation à outrance. Alors, on doit le faire avec intelligence. Hein, il ne s'agit pas de le faire, mais le faire avec intelligence. Vous voyez ? Parce que ça tient quelque chose de très curieux. Je prends ce cas parce que là, c'est une expérience. Et la philosophie fait qu'on doit regarder nos expériences. Alors, on dit, ce moine, dans le cas de notre cher père innocent, ce moine peut être en habit religieux dans la ville. Il arrivera à l'hôpital où il aura son bureau. Donc il arrivera religieux. Dans le bureau, il change d'habit. pour circuler dans l'hôpital. À l'hôpital, à son bureau, il peut recevoir un religieux. Et on met leur religieux dans une boîte. Et ça, c'est des petits signes. Hein. C'est pas... Si on lutte contre ça, c'est parce que ce sont des signes d'une laïcisation qui se fait de plus en plus. Alors, on doit lutter contre ça. C'est notre devoir de chrétien et d'homme. Tout simplement d'homme. Si on veut être un homme, on doit lutter contre ça. On n'a pas le droit d'accepter qu'on considère que l'homme peut être parfaitement homme sans avoir une relation vis-à-vis de Dieu. Ça, je crois. On doit en avoir la conviction intérieure, vous voyez. C'est ça qu'il faut. Et s'il y a des obstacles là, parmi certains d'entre vous, atteints déjà du microbe, de la laïcisation, j'aimerais que ça s'explicite. C'est une excellente question disputée, ça. Parce que je crois ça capital, dès qu'on aborde le problème éthique. Dès qu'on aborde le problème éthique. Je n'irai pas à dire, comme certains l'ont dit, et c'est intéressant, du reste, de voir ça, qu'il n'y a pas d'éthique en dehors de l'éthique religieuse. On le dit souvent, ça. Je comprends très bien comment on le dit, mais c'est peut-être pas assez philosophique. Alors, c'est ça qu'on va essayer de voir. Pas d'éthique en dehors de l'éthique chrétienne. C'est pas assez philosophique. Il y a l'éthique chrétienne, c'est sûr, et le pape parle de l'éthique chrétienne. Et le pape s'adresse aux évêques. Donc, normalement, ils sont croyants. Et il s'adresse aux évêques et il leur enseigne une éthique chrétienne. Et l'éthique chrétienne commence comment? Selon la tradition judéo-chrétienne, à Moïse. C'est Tu as donné la loi. Et on sait combien la loi a joué un rôle important sur le peuple d'Israël. Et je suis persuadé que si le pape fait ça, c'est qu'il a dans son esprit qu'il faut que les chrétiens regardent la tradition judéo-chrétienne comme quelque chose dans laquelle ils s'enracinent. Et que je n'ai pas le droit de faire une morale chrétienne sans regarder Moïse. Il a été choisi par Dieu pour ça. Et c'est pour ça qu'en théologie, vous voyez, les commandements de Dieu jouent un rôle très important. C'est vrai. Que la théologie scientifique de saint Thomas ne commence pas par les commandements de Dieu, c'est normal. On est en théologie scientifique. Mais qu'au point de vue pastoral, on rappelle cela, je crois que aujourd'hui, c'est nécessaire de le rappeler. Vous voyez? Mais le théologien est celui qui aborde les gens qui ne croient pas, doit essayer de comprendre pourquoi de l'éthique. C'est très différent. Toute la philosophie repose sur l'expérience humaine. Tandis que la théologie repose sur la foi. Et sur l'histoire de la foi. La foi a été donnée à travers un peuple. Je ne peux pas faire l'économie du peuple juif. Peut pas. Mais je dois regarder la loi dans la lumière dont parle saint Paul. Faut pas l'oublier. L'épître aux Romains. Et l'épître aux Romains est une épître pas commode et rude, mais très belle. Si on avait le temps, la verrons ensemble. Parallèlement au cours d'éthique, Ce serait très intéressant. Relisez l'épître aux Romains. Parce que c'est quand même quelque chose de très très important pour voir les rapports entre le chrétien et le point de vue judéo-chrétien. Tous ces problèmes sont très très actuels. Hein. Et je crois qu'on doit les regarder. Et on doit essayer de comprendre. Je dis bien essayer de comprendre, parce que c'est complexe. Pas conclure trop vite. Reste avec des points d'interrogation. Pourquoi le pape commence-t-il comme ça? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Écoutez les réactions. Il y en a qui sont passionnelles, alors celles-là on les laisse tomber. Il y en a qui sont quand même intéressantes. Et puis nous, ici on fait de la philosophie. Je ne vais pas vous dire, puisque Splendor Veritatis est apparu, tout ce que je vous ai dit l'année dernière, ça ne signifie rien du tout. Et maintenant, nous allons faire de la théologie. Non. Nous devons faire de la philo. Alors, en philosophie, l'expérience. Tenir compte de ce que dit Camus. Parce que Camus n'était pas un imbécile. Tenir compte de ce que dit Saint-Exupéry. C'était pas un imbécile. Et il donne des climats d'aujourd'hui et font comprendre certaines attitudes. C'est vrai, c'est là où la littérature joue comme manière. Et puis nos expériences, surtout parce que l'expérience de Camus est une expérience. J'ai compris Camus en allant à Oran. Quand on va à Oran, on comprend Camus, puisque sa mère était d'Oran. Alors on voit toute l'influence espagnole sur Camus. Camus mettait ses enfants à l'école libre, et de ce temps-là, c'était une école catholique. Pourquoi? Parce qu'il disait que c'est là seulement où l'éducation était bien donnée. Donc, aucune fermeture à l'aspect catholique. Il a été élevé chrétiennement dans l'église catholique. Mais, très sensible au climat, en disant, aujourd'hui, la plupart des jeunes ont une peine énorme de comprendre la responsabilité morale. Est-ce que je crois très vrai? Alors Camus dit, c'est le beau qui va sauver l'homme. Est-ce que le beau peut sauver l'homme? Les jeunes d'aujourd'hui sont très sensibilisés à l'art. On ne peut pas nier. Du reste pour ça que très vite la Providence a voulu qu'il y ait cette petite école tout près de nous à Sens, qu'on essaie de prendre la jeunesse par le point de vue artistique et intellectuel. C'est très juste et je crois que c'est nécessaire. Si vous commencez avec la jeunesse en parlant tout de suite des commandements de Dieu, ça n'ira pas très loin. Ça, j'en suis sûr. Ils diront, c'est conscien, ce qui n'est pas juste, parce que Moïse n'était pas conscien. Alors, ne voyons pas Kant partout. Voyons que Kant a laïcisé Moïse, alors que peut-être ça a eu une petite influence. Et c'est vrai d'une certaine manière. Il faut. Tu dois faire ça. Oui, en éducation, on est bien obligé de temps en temps de le dire. Autrement, on laisserait la liberté totale pour que la petite fille donne des coups de pied à son voisin. Ou à sa voisine. Alors, je crois qu'aujourd'hui, étant donné le niveau moral devant lequel on se trouve, la perversion dans laquelle on se trouve, les gosses, à partir de 10 ans, dans beaucoup de pays, ils sont détournés. essayer de comprendre comment pouvons-nous saisir une véritable éthique humaine. En comprenant bien, et nous savons bien, que cette éthique humaine ne sera parfaite que si elle est chrétienne, ne sera efficace que si elle est chrétienne. Mais cependant, il y a une réflexion sur la dimension humaine de la responsabilité. Et je n'ai pas le droit de dire que cette responsabilité n'existe que si à la foi. Non. Si je dis ça, je tombe dans un fidéisme pratique. Et pratiquement, j'aboutis à Kant. L'impératif catégorique qui est la voix de Dieu en moi. Donc pratiquement, qui est le point de vue de la foi. Il faut essayer de comprendre dans mes expériences humaines à quel moment je peux éveiller le point de vue moral, le point de vue éthique. Et comment, au plan philosophique, je puis, à partir de l'expérience, comprendre cette dimension humaine d'un développement éthique. Si l'homme supprime de sa vie l'aspect moral, il n'est plus un homme. Si l'homme ne regarde que comme dimension humaine le facere, ce que l'homme est capable d'édifier, de réaliser, il n'est plus un homme. Il y a quelque chose d'essentiel à l'homme qui est l'éveil du point de vue moral. Alors, ce n'est pas une apologétique, hein, c'est une philosophie. Découvrir dans l'homme cette dimension morale. Voilà le problème. Quand les traditions religieuses sont très fortes, toute l'éducation s'appuie sur les traditions religieuses. Mais on peut dire qu'en 40 ans, il y a eu une destruction presque généralisée de ces traditions religieuses. Je l'ai vu, je l'ai constaté. Des choses très très curieuses qu'on voit. Il y a comme eu un raz-de-marée, un cyclone qui est passé, qui a ravagé tout ça. Et on peut presque mettre une date. C'est quand même très très curieux. Des signes qui fait que on s'est mis à critiquer violemment l'éducation chrétienne. Disant, elle repose sur un a priori, la foi chrétienne, il faut balancer tout ça. Il faut tout reprendre au point de départ. Ça a correspondu, dans toutes ces années, au point de vue même ecclésiastique, où il y a eu une hémorragie terrible, au point de vue religieux, tous ceux qui sont partis. C'est curieux au point de vue date. Quand on regarde dans les congrégations religieuses, tous les départs, c'est un petit signe pour nous. Eh bien, on peut voir ça, exactement la date. Avant, pas et après. C'est curieux du reste, ça. Mais c'est ce qui prouve qu'il y a eu comme une sorte de je ne sais pas, une attaque violente qui a brisé une tradition. Nous, on se trouve maintenant devant ça. Et on doit philosopher. C'est-à-dire, on doit redécouvrir dans l'homme la naissance de l'attitude religieuse, de l'attitude morale. Alors, je peux regarder, et c'est intéressant à faire, toutes les morales qui ont existé en philosophie grecque. La morale de Socrate, connais-toi toi-même. Ça peut être un point de départ. Mais voyez, avec le psychologiste d'aujourd'hui, c'est pas commun du tout. Ce qu'on pourrait dire comme psychologue, pourrait dire, c'est du Socrate, hein, connais-toi toi-même. Et les dieux, ce que Socrate ajoutait, ce que le psychologue n'ajoute pas. Donc, connais-toi toi-même. La morale de Platon, qui est une morale qui repose sur la contemplation. Une contemplation assez esthétique. La morale d'Aristote, qui repose sur l'expérience. La morale stoïcienne, qui repose sur la loi naturelle. La morale épicurienne, qui repose sur la jouissance. Je crois que vous avez 5 formes de morale, de philosophie morale très différentes. Et elles sont intéressantes. Elles sont très intéressantes. Il y aurait là quelque chose qui serait très intéressant à faire aujourd'hui. À exposer ces 5 morales. Et d'une certaine manière, vous voyez, ce qu'il y a d'authentique dans chacune de ces morales, il y a quelque chose de vrai en chacune. Il y a quelque chose de vrai. On verrait que la morale chrétienne assume ces 5 modalités. C'est ça qui me semble le plus étonnant. On exposerait ces 5 morales, puis on montrerait le Christ. Et on montrerait comment Jésus, pas un iota de la loi ne disparaît. Et comment toute la loi est dépassée. Et donc la morale chrétienne, dans ce qu'elle a de fondement, la loi, c'est son fondement. Et l'épanouissement, la fleur, les béatitudes évangéliques, qui ne s'opposent pas à la loi, c'est bien évident, mais qui explicite tout le mystère de l'amour. Puisque l'amour à l'égard de Dieu, l'amour du prochain, contient toute la loi, tous les préceptes. Donc c'est une reprise radicale dans l'amour. Alors, nous ne faisons pas ici une éthique chrétienne, une théologie morale. Vous la ferez à Rimon. Vous la faites déjà pour vous, hein, avec le catéchisme. Et vous la faites parce que, au noviciat, on vous enseigne la morale chrétienne. Mais ici, au cours, je ne mets pas entre parenthèses la morale chrétienne. Je dis, c'est pas ça que j'éclaire. Vous savez, son et lumière. Alors, on éclaire la partie fondamentale d'une morale humaine. Sachant très bien que l'édifice parfait implique le point de vue chrétien. C'est pour ça que je dis son et lumière. Et quand vous faites son et lumière d'un vieux château qui a été construit successivement, on éclaire en premier lieu la partie la plus ancienne, 12e siècle. Et la première partie pour nous, c'est bien plus ancien que le 12e siècle. C'est quelque chose. Chassés du paradis terrestre, gardant leur nature humaine. Si vous dites qu'il n'y a plus de morale humaine, ça veut dire que le péché et les conséquences du péché originel ont supprimé l'intelligence humaine. Parce qu'une morale humaine existe avec le point de vue de la prudence. Sommes-nous capables de poser un acte de prudence ? Point de vue humain. Est-ce que la grâce chrétienne reprend tout radicalement? Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle supprime la nature? Non. La grâce ne supprime pas la nature. Donc si la grâce ne supprime pas la nature, il y a donc une éthique qui peut être philosophique. Mais qui n'est pas parfaite, hein, parce que je suis un chrétien. Donc je ne vis pas de mon éthique philosophique. Si j'étais pas chrétien, je vivrais de cette éthique-là. Parce que celle que j'essaie de comprendre, c'est nécessairement celle que je considère comme la plus vraie. Donc moi, je conseillerais pas. Alors, quel sera le point de départ? Je veux une philosophie réaliste, donc l'expérience. Quelle est l'expérience humaine qui me permet de comprendre l'acte humain, l'acte moral, dans toute sa force? Le premier moment, comprenez bien, le premier moment de ma vie morale, je ne sais pas c'est lequel. Vous n'en avez pas le souvenir. Je crois que c'est la première fois que vous avez dit non à votre mère. Puis vous avez tapé du pied. Non, non. Puis tourné le dos. La désobéissance, je crois. Mais voyez, c'est très vieux. Hein. Si vous rappelez ça, rappelez-vous ça dans une confession générale. C'est très bien pour la confession générale, mais pas pour la philosophie. Je fais la philosophie de l'homme. Et donc je ne fais pas la philosophie du passé. Je fais la philosophie actuelle. C'est mon acte moral actuel qui m'intéresse. Et c'est à partir de là que j'essaie de comprendre. Or, actuellement, l'acte moral humain le plus parfait, à partir duquel je pourrais analyser l'acte humain, il me semble que c'est l'amour d'amitié. L'amour d'amitié est humain. Un homme qui ne sait plus aimer, il lui manque quelque chose. Ça arrive, hein, des gens qui vous disent « je ne sais plus aimer ». Je ne sais plus ce que c'est que l'amour. Et c'est terrible. C'est ce qu'il y a de plus difficile, hein, à réanimer la vieille pompe qui ne sait plus aimer. Elle souffle, elle ne sait plus aimer. Et ça arrive dans le monde d'aujourd'hui. Des gens tellement abrutis, tellement usés, qui ne savent plus aimer. Je crois que l'expérience actuelle que je peux avoir de mes activités humaines, je dis bien de mes activités humaines, c'est l'expérience de l'amour d'amitié. Cette expérience de l'amour d'amitié a ceci tout à fait particulier. C'est l'expérience humaine la plus parfaite comme expérience humaine. Je crois. Parce que si vous dites « Ah non, c'est la contemplation philosophique et métaphysique », elle est tellement rare. Il faudrait attendre 45 ans pour pouvoir étudier ce que c'est qu'un acte humain. C'est pas tout de suite. Tandis que l'amour d'amitié, on a commencé bien plus vite. À 12 ans, un gosse comprend un tout petit peu ce que c'est qu'aimer quelqu'un. Et même quelquefois avant. À 4 ans. Aujourd'hui, puisque tout va beaucoup plus vite. Vous voyez des petits Parisiens à 4 ans qui savent très bien ce que c'est qu'aimer. Très bien. À peu près. Puis comme nous n'avons plus 4 ans, quand même, et ça n'a cessé d'exister et d'être présent pour nous. Et donc, nous pouvons réfléchir sur cette expérience qu'on a tous, plus ou moins parfaite, et qu'on a tous, où on a le désir d'un amour d'amitié. Alors le danger, c'est quelquefois, c'est un rêve. On a idéalisé. Je veux me marier avec Miss Idéal. Non, c'est un rêve. Parce que vous ne la rencontrerez jamais. Je veux me donner au Seigneur dans l'ordre le plus parfait. Ça n'existe pas. Donc, vous ne donnerez jamais. Alors à ce moment-là, je vais être ermite. Dans le plus grand désert, qui n'existe pas. Donc, alors vous idéalisez. Et vous ne pouvez pas partir d'une expérience idéalisée. Vous n'êtes plus dans le réel. réel dans notre vie. Le plus concret, c'est l'amour. Et un amour d'amitié. C'est ce qu'il y a de plus concret. La connaissance a toujours un peu un mode abstrait. Tandis que l'amour répugne à l'amour, à l'aspect concret, à l'aspect abstrait. C'est toujours concret. J'aime une personne. J'aime un individu. Or, si je veux une morale réaliste, et c'est ce que je ne pars pas du devoir. Partir du devoir, c'est encore un idéal. Je ne pars pas des valeurs, c'est encore un idéal. Puisque le devoir présuppose la loi. Et la loi est universelle. On n'a pas posé une loi exprès pour vous. Qu'est-ce que Dieu a déposé dans votre cœur pour vous? C'est l'amour. Et l'amour seul est parfaitement concret. Donc, si je veux étudier l'éthique, la philosophie morale, au plan philosophique, je pars de cette expérience. Quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est que l'amour spirituel est amoral. Il est amoral. Ou s'il est moral, il prendra une morale stoïcienne. Il sera, au bout d'un certain temps, une loi ambulante. Et tout le monde aura peur de lui. Alors il aura sa morale stoïcienne, extrêmement bien réglée, mais qui n'est plus une morale, qui est un asséchiste. Il est dans la sécheresse absolue, au point de vue du cœur. Terre aride et sans aucune pousse. C'est très curieux ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Et en avoir la conviction qu'on ne peut partir au plan philosophique que de l'amour d'amitié. C'est pour ça qu'Aristote disait que on ne peut pas faire une philosophie éthique quand on est trop jeune. Parce que les passions sont telles que ça étouffe. Nous, nous avons le privilège d'être chrétiens. Ça, c'est le privilège. Et il y a de temps en temps un orage, hein, purement intentionnel, alors ne vous inquiétez pas. On a ce privilège. Ce qui fait que la conscience humaine, pour un chrétien, se développe beaucoup plus vite que chez un païen. Quelquefois tellement vite qu'il n'y a plus d'enracinement suffisant. Et ça explique pas mal de choses au point de vue psychologique. Un milieu de serre surchauffé. Vous avez déjà vu ça, hein? Fait qu'il y a des plantes qui poussent avec une rapidité folle, mais il n'y a pas d'enracinement. Ça a une souplesse merveilleuse, étonnante, ça a poussé. Ça prend tous les détours, et puis quand le vent souffle, ça va dans tous les sens. Il n'y a plus d'enracinement. Et c'est ça, je crois, voyez, le fait d'une vieille chrétienté. Quand Saint-Pierre est arrivé à Lyon, il a dit au cardinal de Courtrai, « Je salue en vous une chrétienté qui a 1000 ans de plus que celle de la Pologne. » Cet enracinement. L'Europe est enracinée là. Et, quelquefois, les serres étaient trop chauffées. Et la famille était chrétienne, mais pas assez humaine. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une morale port-royale. Et la morale port-royale, c'est un nouveau stoïcisme. Un stoïcisme très élégant. peut avoir de très grands dangers dans une éthique des valeurs ou une politique des valeurs. Je comprends très bien qu'on appelle ça, ça paraît beaucoup mieux que ce qu'on voit, c'est sûr, mais c'est dangereux. Il y a derrière un stoïcisme. Alors doit-on passer par la phase stoïcienne avant d'arriver à l'autre phase? Ça, c'est un très gros problème pédagogique. C'est un très gros problème pédagogique et politique. Quand on est en face de la destruction radicale, où on ne sait plus ce que sont les lois, on ne sait même plus ça, et que le point de vue juridique des magistrats est contaminé et n'a plus le sens de la justice, comment relever une situation comme celle-là? Alors doit-on passer par la phase stoïcienne? Certains le prétendent. Pour ensuite, de là, arriver à une phase beaucoup plus profonde, plus réfléchie, qui serait ce qu'on appellerait, nous, philosophie réaliste de la finalité. Ou doit-on, au contraire, tout de suite, parce que c'est table rase, reprendre le point de vue de la finalité? Je crois que souvent, il y a une mixture. Très souvent, parce que les aspects concrets ne peuvent pas avoir la même limpidité que l'aspect philosophique. Le plan philosophique, je crois que toute éthique valable, vraie, c'est encore mieux, toute éthique vraie repose sur une expérience de l'amour d'amitié. Et quelqu'un qui n'aurait pas cette expérience de l'amour d'amitié risque très vite de se réfugier dans une éthique stoïcienne qui a une très grande noblesse. C'est une éthique un peu aristocratique, au grand sens grec, c'est-à-dire l'éthique des meilleurs, une éthique d'élite. Mais c'est important de réfléchir là-dessus. Alors évidemment, une éthique qui se base à la manière stoïcienne se fonde sur le devoir, sur la loi, et donc sur la loi naturelle. Historiquement, la loi naturelle s'est exprimée chez les stoïciens, pas chez Aristote. C'est intéressant. Alors, au point de vue de la foi, la loi naturelle est donnée tout de suite, hein, parce que le décalogue se fonde sur la loi naturelle. Mais au point de vue philosophique, je crois qu'on doit découvrir en premier lieu la finalité, puis ensuite on découvre ce qu'est la prudence, ce que nous allons voir. On découvre d'abord la finalité, et dans la finalité on découvre la prudence. Et par la prudence on découvre la loi.